Eh bien, bonjour, bonjour. Je serrai la main à certains d'entre vous, aux autres non. Je fais la bise à certains d'entre vous et aux autres non. Mais en tout cas, je suis très content d'être avec vous ce matin. Comme je me promène beaucoup, et surtout les dimanches, alors vous êtes ma famille ce dimanche. Et on chantait tout à l'heure et je me disais, comment est-ce que je vais me présenter ? Bon. En fait, je suis quelqu'un d'ordinaire. Voilà. Il y a pas de. On est dans un monde hein, où on voudrait être plus que ça, plus que les autres. On se prend un selfie juste pour être super classe sur un réseau social ou un autre. Et en fait, on est ordinaire. On est ordinaire, mais Dieu est venu nous chercher. Hein? Dans toute notre simplicité, il est venu nous repêcher. On ne sait encore pas pourquoi on a été pris dans sa grâce, parce qu'il nous aime, tout simplement. Voilà, je pense que là, c'est bon. Alors ce matin, aimez vos ennemis. On sait que c'est dans la Bible, ça. Moi, j'ai des amis, encore, heureusement, non chrétiens. Et quand je leur pose la question, qu'est-ce que vous connaissez de la Bible ? Parfois, on me répond, oui, c'est simple, œil pour œil et dent pour dent. C'est ça la justice de Dieu. Je me dis, au moins, ils ont quelque chose de la Bible dans leur tête. D'autres qui sont peut-être plus joueurs, ils vont dire, tourne l'autre joue. Et parfois, ils font même un geste avec, et je me dis, c'est des amis, ils ne vont quand même pas me taper, mais c'est vrai que s'ils me tapaient, voilà. Alors, ils pourraient dire, tu aimeras ton prochain. Et ça, c'est dans Lévitique, hein, donc c'est dans l'Ancien Testament. Et donc, c'est des paroles qui datent de très longtemps. Et nos frères, peut-être, nos amis juifs de l'époque, ils ont vécu avec cette phrase pendant un moment et puis ils se sont posé cette question, comme ils l'ont posé à Jésus hein, dans le Nouveau Testament, mais qui est mon prochain ? Sous-entendu que si on arrive à bien définir mon prochain, ensuite, et c'était de coutume de le transformer en ça, tu aimeras ton prochain, et du coup, ceux que je définis comme n'étant pas mon prochain, c'est donc mes ennemis et je haïs mes ennemis. C'était de la culture à l'époque. Et c'est pour ça que Jésus reprend ça en disant, vous dites tout le temps, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Bon, moi, dans mon ordinaire, je me retrouve parfois là-dedans. C'est pas que je ne sais pas qu'il faudrait que j'aime mon prochain, mais parfois... Et en ce moment, c'est surtout sur la route. On me coupe la route, on ne respecte pas un feu. Et puis d'un coup, cette personne devient comme, pas mon prochain, mais il devient comme mon ennemi. Et surtout quand je suis tout seul dans la voiture, je sens, quand il y a mon fils à côté, je fais un peu plus attention. Mais j'ai déjà été obligé de confesser hein, ce genre de péché à mon fils pour lui dire, je n'ai pas raison de ça. Jésus, il dit bien, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Et puis un peu avant qu'il dise ça, on a ce verset en Luc, et la même chose, on va le voir en Matthieu, mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. On a à peu près la même chose en Matthieu. Hein, on sait bien que maintenant, au moins trois des évangiles sont un peu parallèles. Et en Matthieu, mais moi, je vous le dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous persécutent. Jésus, il était comme ça. Il se promenait et il accédait à la culture des gens en disant souvent « Vous avez entendu qu'il a été dit telle chose. » Et Jésus arrivait en disant, mais moi, je vous dis, pas telle autre chose, mais je vous dis comment interpréter ce qui a été dit avant, comme l'accomplissement, ce Jésus. Alors on a ça. Est-ce que aimer vos ennemis, c'est le commandement le plus radical de Jésus ? Peut-être, hein, si on vraiment on considère qu'est-ce que pourrait être un ennemi, et si vraiment il faut qu'on aille l'aimer. Mais on pourrait dire, oui, mais ça existe déjà. C'est pas nouveau, ce que dit Jésus. Par exemple, si on reprend un orateur grec, bon, qu'ils appellent Isocrate, 400 ans avant Jésus, lui, il disait, les choses qui te mettent en colère lorsque tu en souffres par les mains des autres, ne les fais pas aux autres. Hein, et puis après, il y a ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Ou alors encore, un rabbin qui aurait dit, ce que tu ne voudrais pas que l'on te fît, ne l'inflige pas à autrui. Et peut-être encore un philosophe juif, helléniste, ce que tu ne voudrais pas endurer toi-même, ne le fais pas aux autres. Et du coup, c'est peut-être un challenge hein, qu'on reçoit de la part de gens qui sont autour de nous, qui disent, bah oui, bah, Jésus, en fait, rien de nouveau. Mais l'enseignement de Jésus, il est radicalement différent. Ce n'est pas une négation au départ, ce que tu ne voudrais pas. C'est toi, va aimer. Ce n'est pas attends et analyse la situation et puis bon, finalement, non, je ne voudrais pas qu'on fasse ça, je ne vais pas le faire. Ou alors, bah, moi, ça ne me dérangerait pas qu'on fasse ça, du coup, je vais le faire. Ce n'est pas ça du tout. C'est comprends bien l'amour et maintenant va agir. Alors du coup, aimer ses ennemis, ce n'est pas un choix hein, qu'on a. C'est vraiment une action qu'on doit avoir. On doit déjà bah, regarder autour de nous, voir qui est-ce qu'on peut aimer comme ça, quels sont nos ennemis, comment est-ce qu'on peut leur montrer de l'amour. Peut-être simplement moi, je vous donnais l'exemple de la circulation. Eh bien, aimer l'ennemi, c'est il me fait une queue de poisson, bah, je ne vais pas lui coller derrière. Je vais dire ok, c'est pas grave, passe. Voilà, et sois béni au nom de Jésus. Alors on rigole avec ça, mais en fait c'est la bonne attitude. C'est comme ça qu'il faudrait être. Hein, accepter que même si par hasard on le rattrape au feu et qu'il nous refasse le même coup, eh ben, encore une fois, hein, qu'on arrive à juste montrer de l'amour à cette personne-là. Et je commence avec un tout petit exemple hein, qui nous touche au quotidien. Mais alors on sait que ça grandit et nos frères et sœurs persécutés dans le monde, eh ben, les gens qu'ils pourraient considérer comme des ennemis ou leurs prochains, eh ben, ils sont tout autres. Hein. Ce n'est pas celui qui fait une queue de poisson, hein, c'est celui qui met une barre de fer dans la tête. Hein, ce n'est pas celui qui accélère brusquement devant nous, mais c'est celui qui vient brûler notre maison. Ou tuer notre mari, ou notre femme, violer notre femme. C'est ça, ses ennemis. Et du coup, ce challenge de aimer vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent, eh ben, ça les tape plus particulièrement. On va regarder maintenant quelques témoignages. Il y a aussi une vidéo, je sais qu'on aime bien les vidéos. Mais celui-ci, il est poignant, ce sera le témoignage de Gladys. Mais juste avant, je voudrais revenir sur l'histoire de, et vous la connaissez, Corrie ten Boom. Corrie ten Boom, c'est une rescapée des camps nazis. Du coup, elle a été tatouée hein, sur l'avant-bras. Et elle a vu des choses horribles dans ces camps. Dans son livre qui s'appelle The Hiding Place, dans mon meilleur anglais, elle dit comme ça. Elle part donc dans une convention et elle retrouve en fait un des officiers SS qui était garde dans le camp dont elle était alors je sais pas membre emprisonnée en tout cas. Elle dit il s'approcha de moi rayonnant et s'inclina. « Je vous remercie infiniment pour votre message, Fräulein, » dit-il. « Quand je pense que, comme vous l'avez dit, le Christ a lavé mes péchés. » Et ensuite, ce garde lui tend la main. « Et moi, qui avais si souvent enseigné aux gens, d'Oblomendal, la nécessité de pardonner, je gardais mon bras le long du corps. Je pris conscience de mon péché, alors même que je sentais bouillonner en moi un sentiment de colère vindicatif. Jésus-Christ était mort pour cet homme. Que me fallait-il de plus ? Seigneur Jésus, priai-je, pardonne-moi et aide-moi à pardonner à cet homme. J'essaye de sourire. Je m'efforçais de soulever mon bras en vain. Je ne ressentais pas la moindre parcelle de sympathie ou de charité. Je priais à nouveau en silence. « Jésus, je ne peux pas pardonner. Accorde-moi ton pardon. » Et alors que je prenais sa main, une chose extraordinaire se passa de mon épaule, le long de mon bras, et jusque dans ma main, un courant sembla passer de moi à lui, pendant que mon cœur débordait d'amour pour cet étranger. On a du mal à comprendre l'amour de Dieu déjà pour nous, et sûrement encore plus de mal à essayer de comprendre l'amour que nous, on peut avoir pour nos ennemis, surtout lorsqu'on retient notre amour, lorsqu'on retient même notre pardon. Mais le challenge, c'est justement d'aller de l'avant, de reconnaître notre difficulté à aller pardonner, implorer le Seigneur et ensuite marcher dans ses voies de pardon. On va maintenant, comme promis, passer un moment avec Gladys, qui est au Kenya. Faudra lire un peu les sous-titres. J'espère que tout le monde a amené ses lunettes. On va écouter Gladys.
Benjamin taught me forgiveness by how he would live. And within a very short while, it became like second nature to me. If I've done something wrong, I'll be the first one to say, Ben, I'm sorry. I did this. Really, really sorry about it. And we had a wonderful relationship. Really, really wonderful relationship. Every time when people come to the clinic, when they are sick, he would make sure that he has a tract to give them about Jesus Christ or share with them about the love of Jesus. It did not matter to him whether they are Christians or they are not Christians. He would still talk about, yeah, you know, I'm giving you this medicine, but no, there is someone who can do this healing more. So don't just believe and trust on this medicine. Believe on God. So that's who he was. Yeah. When they got to this homestead, they met the lady of the house. And they greeted her and they requested to have time with the man of the house so that they can, you know, share the gospel. As she walked out and stand just a little distance, she started to scream, thief, thief, thief. So people just emerged. We don't know from where, but people just emerged. They were holding stones, some were holding machetes, some, you know, with sticks, and they just descended on them. And they just started beating them. I think he was just telling them, we have a Bible, we've come here, you can see, we are not thieves, we have our own car, we've just come to pray with you, we've just come to share with you the word of God, and these people totally refused to listen. And they just beat them, hit them with stones, and slashed them with machetes until they were down. And before they were dead, they took the petrol. And they were burnt. And it was like, oof, horrible. We just, we did not know what to do. I did not, you know, I was just left speechless. I was like, so what next? I mean, my mind just went blank, to be honest. I went before God and I was like, God, we prayed. Benjamin has been fasting a whole week on this. And if it was not what you had purposed, what you wanted, you only had to speak. I mean, it got to that point that I was sharing with God that. But why? Why did you allow this? What happened? What went wrong? The ones I was really worried and concerned were my children, because they loved their dad. They banged doors, they broke cutlery, and I just told people, just let them just spew out what they are feeling. And they felt so angry and they said, no, 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 Mom, no way. They can't do this to dad and just get scot-free. At night when we were praying, they said, Mom, our prayer. Each and every person was involved. The one who lifted a stone, the one who lifted a machete, the one who lifted a stick, the one who even brought petrol, the one who even lit that fire must get saved. It's not, there's no two ways about it. I remember that was the second day and we were praying for the people who were behind all that. And I said, this is so like Benjamin himself, to quickly forgive and move on, not to hold on to things because somebody has angered you, somebody has hurt you. No, forgive, let go, and move on. For me, my biggest worry was, God, what happened? I remember that day I said, God, today you must tell me. I can't take it anymore. When I was asleep, I saw myself seated on a very beautiful green lawn. Beautiful. Then there was this sun. That sun was bright, but not burning. A beautiful, pleasant feel on my skin. And around there were flowers. Beautiful, beautiful flowers. The butterflies were just awesome. And there was this scent in the air, just a beautiful scent. And then there was the music. There was a tinkling music. It goes, you know, like bells tinkling in the air. And here I was seated and I was looking happy. I can't tell you what I was doing with my hands, but my hands were, you know, something like this. And then a voice spoke to me and it said, it was my doing, and I am well pleased. And I was smiling. And that morning, I didn't feel that pain. It was gone. And I realized that it was over. God had dealt with my pain. He had dealt with my tears. He had dealt with me. I realized that the thing that kept on holding me was because I was holding these people and just really asking God every time, God, can you do something? The glorious lesson is that Christ was persecuted, and so we will also go through persecution. And when we go through persecution, it's not because God hates us, no. He still loves us. But one day we are going to meet, and I'm going to tell them on the face, I forgive you. I loved my husband. Can never imagine how much I miss him. every single day. But I have allowed God to deal with me and forgive. Love plus forgiveness equals life. Hate plus unforgiveness equals death. That's all. It costed me to go to the lowest point to accept and get release. And I did, purely out of forgiveness.
Je lui ai annoncé l'évangile. Il a donné sa vie à Christ. Et immédiatement, la haine qui était en moi disparaît. Nous sommes devenus amis.
J'ai été interviewé par une chaîne de télévision. Ils m'ont demandé si je voulais me venger des gens qui m'ont agressé. J'ai dit non, je ne veux pas me venger. Je prie pour que Dieu pardonne à mes agresseurs. Et moi, je leur pardonne.
Nous sommes allés vers eux. Puis, on a commencé à leur vraiment prouver notre amour vis-à-vis d'eux.
Alors que j'étais à l'hôpital, une délégation des droits de l'homme est venue me voir. Ils m'ont dit, donnez-nous un nom pour que nous puissions porter plainte contre eux. J'ai répondu, non, je ne veux pas porter plainte contre eux. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Et je prie toujours pour leur village, pour que tous les villageois sachent qui est Jésus. Alors oui, bien sûr que je leur ai pardonné. Je les aime.
Ses ennemis. On a pris la Sainte Cène tout à l'heure, tous ensemble, et on s'est rappelé que Jésus est allé jusqu'au bout. Il n'a pas cherché à préserver sa vie au-delà du plan du Père pour lui. Il s'est soumis à ce que Dieu le Père voulait. Et nous, on marche sur les pas de Jésus. Aussi, on ne peut pas présenter un évangile rose. On se dit, si le mal dans le monde a voulu effacer Jésus, effacer le bien que représentait Jésus, eh bien, le mal dans le monde veut aussi effacer le bien que nous, on montre dans le monde, la lumière dont on fait preuve dans le monde. Donc on n'est pas étonné, on ne devrait pas l'être, de voir que les chrétiens à travers le monde souffrent terriblement pour leur vie, droite devant Dieu, brillant de lumière. On devrait peut-être plus être étonné que chez nous, on a cette liberté-là de se réunir, de partager la Sainte Cène sans penser qu'un malheur va arriver. Et on devrait quand même être bien mis à défi, challengé par ce qui se passe ailleurs dans le monde. On a entendu le témoignage de ce pasteur Thomas dans la vidéo. Lui, il a été pris à partie et terriblement battu. Ils l'ont battu avec des bâtons jusqu'à ce que du sang coule de ses oreilles. Et ce n'est qu'après, quand il est revenu à lui, il s'est retrouvé qu'il était à l'hôpital et il pensait vraiment qu'il allait perdre la vie. Et on l'a entendu parler. Il a dit « Non, je ne veux pas vous donner des noms parce que je, je les aime et je voudrais juste qu'ils connaissent Dieu à la fin. Bon, on pourrait mettre en question hein, ce témoignage-là en se disant, bah, quand même, peut-être qu'il aurait mieux fallu faire fonctionner les lois du pays qui le protège aussi hein, en portant plainte. Bon, ça c'est un peu à chacun de voir. Mais en tout cas, aimer ses ennemis, ça c'est incontournable. On a cette histoire aussi de Nadia, qui est égyptienne. Elle part faire un week-end d'église avec des membres de sa famille, avec des membres de sa communauté. En fait, ils sont en pèlerinage hein, pour aller vers un lieu de culte réputé, un monastère. Et alors qu'ils se rendent sur ce monastère en bus, le bus est arrêté à une sorte de checkpoint d'hommes armés. C'est Daesh qui est là. Ils montent dans le bus et le premier venu, c'était le gendre de Nadia. Et lui disent, bon, renonce à ta foi, suis plutôt le prophète. Le gendre, il montre juste le tatouage d'une croix qu'il a sur l'avant-bras. Là. Il dit, non, moi, j'appartiens à Jésus. Et c'est le dernier mot qui est sorti de sa bouche parce qu'il a été tué dans le bus. Ensuite, ces personnes de Daesh ont parcouru le bus, s'en prenant surtout aux hommes. Et les uns après les autres, ces hommes, ils ont été tués parce qu'ils refusaient de renoncer le nom de Jésus. Et puis, ils sont arrivés à côté de Nadia. À côté d'elle, il y avait son fils qui était là. Et ils lui ont dit encore, « Renie ta foi ou tu vas mourir. » Et le fils de Nadia, il dit, « Non, je suis chrétien. » Et il est mort, juste à côté de sa maman. Comment Nadia, elle doit faire là-dedans? Forcément, quand ça s'est passé, il y a eu beaucoup de larmes, beaucoup de détresse. Et finalement, avec le temps passé dans sa communauté, avec le temps passé avec Dieu, Nadia dit, ben, je prie pour qu'il soit touché par Dieu, afin qu'il change d'attitude. Et pour en arriver là, ben, c'est qu'elle a dû faire ce chemin de pardon aussi dans son cœur pour vouloir le bien de ceux qui lui ont ôté des membres de sa famille. On a aussi le témoignage de Agnès, qui habite au Nigeria. Elle dort chez elle avec sa famille. Et très tôt le matin, ils entendent des coups de feu, il y a un émoi dans la ville ou dans le village, et ils se disent, ah, il faut qu'on parte. Au Nigeria, il y a beaucoup d'attaques comme ça sur des villages, des villes, et du coup, les gens, dès qu'ils commencent à entendre des coups de feu, ils pensent que soit c'est Boko Haram, soit c'est les Peuls ou les Fulani qui attaquent pour prendre les terres. Et donc là, la famille se réveille en vitesse et ils prennent deux, trois choses et ils commencent à courir. Aussi, son mari et son fils aîné, eh bien, ils courent au devant. Et là, un peu au loin, elle voit son mari et son fils eh bien, se faire tuer, découper. Aussi, ils essayent de prendre un chemin de traverse, mais ils sont rattrapés aussi par ces mêmes gens et ils sont emprisonnés, enfin, ils sont passés en esclavage. Agnès, elle négocie un peu avec ces gens et elle dit, bon, je n'ai pas grand-chose, mais le peu que j'ai, eh ben, je vous le donne, mais laissez-nous partir. Et à sa surprise, eh ben, les gens qui l'ont pris, ils disent, ok, on vous laisse partir. Du coup, elle achète sa libération et la libération de ses petits-enfants qui sont là. Elle dit, en fait, elle entend Dieu dire « pardonne, pardonne, pardonne ». Ce jour-là, j'ai dit « oui Seigneur, tu es bon, aide-moi à pardonner à ces hommes ». Et ensuite, elle dit « le jour même, je leur ai pardonné ». Elle a dit, bah Dieu, en fait, il est plus grand que toutes les circonstances. Il y a encore beaucoup de témoignages, mais je vois que je manque un peu de temps. Je vais m'attarder sur celui-ci. On retourne en Égypte. En Égypte, ils avaient l'habitude, pendant le Ramadan, de dresser devant les églises des tables avec de la nourriture dessus. Pas parce qu'ils suivaient le Ramadan, mais parce qu'ils voulaient accueillir tous ces musulmans qui étaient autour pour leur dire ben, on est avec vous dans ce temps et on veut célébrer la fin du jeûne tous les jours avec vous. Et du coup, pendant tout le Ramadan, à la tombée de la nuit, eh ben, ils servaient à boire, à manger, à tout un chacun qui venait. Et c'était souvent les plus pauvres qui venaient pour rompre le jeûne devant l'église. Et c'était un bon moment pour témoigner. Mais ensuite, l'église en Égypte, elle a été frappée, on le sait, avec des bombes, des kamikazes qui sont venus, et puis des exemples comme ce bus qui se rendait à Minya, etc. Et les chrétiens se sont dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que maintenant on doit se protéger, vivre un peu caché, pas aller vers ces musulmans qui nous ont fait tant de mal, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis aussi, il y a le risque. S'il y a un attroupement devant une église, et c'est là peut-être qu'on va venir poser une bombe, même pendant le Ramadan, juste pour faire encore plus de mal aux chrétiens. Et ils étaient vraiment dans le doute pendant un moment. Et ensuite, ils se sont dit non, on ne doit pas s'abstenir de prêcher la parole de Dieu. On ne doit pas s'abstenir de témoigner. Au contraire, il faut qu'on aille de l'avant, il faut qu'on pardonne à ceux qui nous ont fait du mal. Et du coup, comme on les a pardonnés, il faut encore qu'on aille vers eux. Et du coup, ils ont commencé plus à faire des repas devant l'église, mais à aller dans les petits villages, là où il y avait moins de risques, et à amener, justement, encore une fois, pendant le Ramadan, amener à manger, amener à boire à ces musulmans dans les villages. Et en fait, Dieu a permis qu'ils aillent encore plus loin que là où ils étaient, à travers la persécution et aussi à travers ce pardon qu'ils avaient donné à leurs persécuteurs. C'est l'amour en action. L'amour en action aussi, c'est peut-être Dirk Willems. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Dirk Willems. C'est peu après la réforme, peut-être un... Non, c'est un peu plus... Ouais, il est mort en 1569, donc c'est peu après la réforme quand même. En fait, lui, il est emprisonné par l'Église à cause de sa foi. À ce moment-là, les églises, elles se battaient entre elles. Et du coup, les persécuteurs, c'était les chrétiens eux-mêmes qui se persécutaient les uns les autres. Il est enfermé, et puis à un moment donné, il arrive à s'échapper. Alors il court, le plus vite possible. C'est un homme qui n'est pas très, très, très fort, il est léger, et il court à travers la ville, les soldats, ils commencent à le chasser, et il se dit, bon, allez, je vais prendre à travers le lac. Le lac, il est gelé. Il court sur la glace. Et là, un grand soldat, un gaillard, qui le poursuit sur la glace. Et comme Dirk Willems, il est léger, il passe tranquillement sur la glace. Et ce soldat costaud, à un moment donné, il tombe à travers la glace. Et Dirk, il se retourne, il le voit tomber à travers la glace. Il s'arrête et il se dit, bon... Ma liberté, la vie de cet homme. Ma liberté, la vie de cet homme. Il fait demi-tour. Il retourne chercher cet homme qui est passé à travers la glace. Il arrive à le tirer hors de la glace. Il est rattrapé par les autres soldats. On le remet en prison. Et des années après, il va mourir brûlé au bûcher. C'est l'amour en action. Il n'a pas cherché son propre bien, il a cherché le bien de ceux qui le persécutaient. Ça lui a coûté sa vie. Mais quel témoignage! C'est vrai que tout ça nous semble un peu impossible. Nous, en plus, qui vivons dans le confort de tout ce qu'on a autour de nous, de nos maisons, nos voitures, nos tout. De tout ce qu'on a. Et le choix qu'on aurait, nous, c'est quoi ? J'abandonne tout ce que j'ai amassé pour aider ce pauvre, aider cette personne qui n'a rien, qui en plus m'a fait du mal. C'est compliqué. Et je pense vraiment que aimer ses ennemis, pardonner à ceux qui nous persécutent, c'est possible, peut-être uniquement si on a nos yeux fixés sur Dieu, uniquement si on a nos yeux fixés sur l'éternité avec notre Père. On va se retrouver là-haut. Je n'aimerais pas que ma femme, elle subisse la persécution, qu'elle décède, ou moi-même. Mais on va se retrouver là-haut. Et donc, fort de l'éternité, fort de notre vie future avec Dieu, alors on peut pardonner, on peut aimer nos ennemis, et on peut aussi soutenir nos frères et sœurs à travers le monde qui vivent vraiment ça en ce moment, en live. Alors je vais vous laisser avec cette pensée-là. Et on va peut-être passer un moment de prière ensemble. On va prier pour nos frères et sœurs persécutés. Alors en principe, j'ai des petites cartes comme ça, mais j'en ai pas avec moi parce que j'ai tout distribué déjà dans le dimanche de l'église persécutée. Mais bon, ça c'est un projet sur le terrain. Je vais laisser celle-ci. Merci pour votre présence aux côtés des chrétiens persécutés. On va prendre un temps, peut-être dans les témoignages que j'ai dit, par les témoignages que vous avez entendus au fur et à mesure de l'année. Peut-être des choses que vous avez lues sur le site internet de Portes Ouvertes, ou si vous recevez le magazine, peut-être des témoignages dans le magazine. Et on va passer un temps maintenant à prier, peut-être juste en grand groupe, si certains veulent élever la voix, pas tout le monde, je suis désolé, on n'aura pas le temps, mais les autres, vous pouvez prier dans votre cœur, vous pouvez dire amen aux prières qui sont dites, et on va remettre nos frères et sœurs à Dieu. Merci.
En tant qu'antenne de Portes Ouvertes, j'aimerais vous présenter la nouvelle campagne de Portes Ouvertes qui va concerner plus particulièrement l'Inde. Parce que actuellement, depuis 2-3 ans, la persécution contre les chrétiens grandit dangereusement en Inde. En fait, dans la plus grande démocratie du monde, la liberté est en danger. Les chrétiens subissent de plein fouet l'idéologie du pouvoir en place, faire de l'Inde une nation hindoue. Et depuis 2014, l'impunité est presque totale pour les persécuteurs. Les nationalistes hindous au pouvoir depuis 4 ans mettent en place leur programme extrémiste qui vise à purifier l'Inde. Et ça a été prononcé de façon publique. Leur but, c'est de faire de l'Inde une nation exclusivement hindoue d'ici 2021. Ils ne reculent devant aucune violence envers les minorités religieuses pour arriver à leur fin. Donc les minorités comme les musulmans, mais encore plus contre les chrétiens. Et Portes Ouvertes fait une grande campagne pour informer de ce qui se passe, et ils organisent un mur de prière pour prier en faveur des chrétiens indiens qui doivent vivre leur foi dans un contexte de violence et de forte discrimination. Prions pour l'Église face à ce processus d'hindouisation bien engagé. Ce mur de prière est disponible sur Internet. On peut s'inscrire pour prier 5 minutes par jour ou par semaine ou plus, n'importe. Afin que ce pays soit inondé par les prières des croyants. Et pour vous montrer le danger aussi, c'est que, si j'ai bien compris, au week-end d'Amarie Lélis, on nous a informé que, par exemple, même les ONG chrétiennes sont expulsées du pays. Et nous avons l'ONG Compassion qui doit partir. Vous savez, c'est cette ONG qui, avec celle parrainage, qui parraine des milliers d'enfants en Inde. donc, et qui apporte aussi une information sur le Seigneur Jésus à chaque enfant. Chaque enfant a l'occasion d'entendre parler du Seigneur Jésus à travers ce programme de parrainage. Et Compassion est obligée de se retirer de ce pays. C'est quelque chose, c'est très grave, finalement. Voilà. Donc, si vous voulez aller sur le site, vous pouvez avoir des informations au fur et à mesure des semaines concernant l'Inde. Alors, juste encore un petit mot. Avec Audrey, nous avons préparé une mini vente au profit de Portes Ouvertes. Et vous pourrez regarder au fond, ainsi que Marc a apporté de la littérature. Voilà.
Ok, on arrive à la fin de ce culte. Moi, je n'étais pas avec vous, je n'ai pas entendu ce que Marc a partagé. J'étais avec les enfants en bas et on a aussi essayé d'aborder le sujet des chrétiens persécutés. Et je me dis qu'il y a du boulot encore, hein, parce qu'on a montré la petite vidéo qu'a fait Porte Ouverte, super format. Le dossier est vraiment bien. Et moi, j'ai les plus grands en bas. Et on a parlé un petit peu après d'Asia Bibi. Ils me regardaient, mais comme ça, les enfants. Là. Et moi, ça m'a un peu calmé. Je me suis dit, il faut qu'on persévère là-dedans, dans nos foyers, dans notre communauté et autour de nous, pour que les gens se rendent compte de cette réalité. Quoi. Les enfants tombaient des nues quand je leur parlais de ça. Ils croyaient que je rigolais un peu, parce que j'aime bien rigoler. Je rigole pas du tout, là. Persévérons sur ça. Ouais, il ne faut pas qu'on lâche, quoi. Donc, je vous encourage aussi, les parents, à en reparler avec eux. On a lu l'histoire de Naaman aussi, de la servante de Naaman avec eux. Vous pouvez vous relire ça ce soir avec eux ou en reparler dans la semaine, je pense que ça serait bien. On peut afficher le programme de la semaine ? L'étude biblique mardi sur 2 Corinthiens. Ça, quand on parle du sujet de persécution, vous verrez, on en reparlera un peu mardi soir. Donc, 2 Corinthiens 1 à 4, on parle de souffrance, mais des souffrances où il y a toujours la présence de Dieu qui est renouvelée et le réconfort qui vient. C'est des sujets, je pense, très en ligne avec ce qu'on vient de voir ce matin. Donc, on vous invite à venir mardi, 20h30. Et puis après, on va passer en mode fête de Noël. Alors là, ouvrez bien les oreilles, il y a plusieurs horaires, plusieurs dates, plusieurs tout à donner. Voilà, merci. Déjà, lundi soir, en fait, pardon. Demain soir, à 18h, on a besoin de 3-4 personnes à Cergy, au château de Cergy. Pour ceux qui ne savent pas où c'est, vous venez me voir ou vous venez voir Philippe Bourjas. Ça sera pour aller récupérer ce grand décor qu'on avait fait l'année dernière pour déjà le remettre sur une remorque pour le préparer. Donc 18h, vous venez tout de suite après voir Philippe pour vous signaler 3-4 personnes. On a vu le groupe de dames 14h, le Femmes Club, 14h ici, vendredi, 14h ici, pas lundi. Okay. Et puis, pour samedi prochain, donc on a notre fête de Noël pour ceux qui habiteraient encore sur une autre planète, 8h30. Rendez-vous à la salle Gaston Laverrière pour tout ce qui est montage justement de cette scène. On ne donne pas de nombre, on a besoin de beaucoup de personnes pour venir aider tant à monter, mettre les chaises, préparer la salle, faire cette scène. Donc beaucoup de personnes, des bras, les gars, il faut venir. Les jeunes aussi, il faut venir. Ouais, on ne dort pas le samedi matin à 8h30.
Il y a des filles costauds aussi.
Il y a des filles costauds aussi, mais il faut les réveiller, les gars. 13h, 15h, répétition générale, ça sera répété cet après-midi, mais c'est surtout pour les parents qu'on transfère cette information. Et puis, 19h, le spectacle, il faudra venir plus tôt pour toutes les personnes concernées, on en reparlera cet après-midi. Et puis, le dimanche après-midi, on redemandera un peu un coup de main pour redémonter cette scène et la préparer pour aller la monter à Duyer. Donc, on démontera tout ça le dimanche après-midi. Je crois que j'ai rien oublié pour la fête de Noël.
Pour l'apéritif,
ouais. Ah oui. L'apéritif, effectivement, j'ai regardé, il n'y a que 4 ou 5 personnes d'inscrits au fond, donc si 200 personnes viennent, il va falloir se partager une quiche entre 3, enfin entre 200 plutôt, ça va être un petit peu juste. Donc pensez à vous inscrire vraiment aujourd'hui, là, on est plusieurs à rester manger, inscrivez-vous sur cette liste, salé, sucré, juste savoir un peu ce qu'on amène. C'est toujours agréable, cette pièce, on y a beaucoup investi en termes de temps, mais peut-être c'est après, en discutant avec les gens, que ça va être aussi fort, donc... Si on peut en discuter autour d'un bon petit truc à manger, c'est quand même plus sympa plutôt qu'autour d'une quiche. autre sujet, complètement rien à voir. Est-ce que vous aimez le surf ? Voilà, le mec, il a pété un plomb complet. Là. Voilà le surf, pourquoi j'en parle du surf. Donc on est très content de vous annoncer que le 17 février, donc c'est dans un petit moment, mais comme ça vous permet de mettre les dates de côté. Le 17 février, on va procéder, j'ai envie de dire, à au moins 5 baptêmes. Je peux vous citer les noms, je vais tâcher de ne pas en oublier, et on va les applaudir. Emma va se faire baptiser, Elisa va se faire baptiser, Ethan va se faire baptiser, Jérémy va se faire baptiser, et Yoav va se faire baptiser. Hier, je préparais le visuel, Lydia elle me dit « Mais c'est quoi ta vague, là ?» Je dis « J'aime bien cette vague, moi. Elle, j'aimerais un baptême tsunami, un peu comme ça. Un truc, ben, voilà, c'est un moment fort et on est content, on se réjouit. Donc, c'est un peu loin parce qu'ils voulaient tous se faire baptiser en même temps, mais on va y arriver comme ça. 17 février, retenez la date, c'est la première semaine des vacances, le début des vacances. Et puis, pour terminer, j'ai envie de terminer d'une manière un peu spéciale encore. Je réfléchissais, vous savez, comme l'apôtre Paul, des fois, dans ses lettres, il transmet des choses aux églises. Il est loin et puis il envoie une lettre de loin, comme ça, pour envoyer des salutations, pour donner des encouragements. Et je me dis, plutôt que de lire un beau verset que j'en aurais pu faire, comme on fait d'habitude pour terminer ce culte, je vais vous présenter un encouragement qu'on a, qui marche. Ouais, c'est Floriane qui nous a envoyé une petite vidéo de l'au-delà. Et puis on va terminer le culte sur ça. Alors je ne reprendrai pas le micro, je vous souhaite un bon dimanche, on se retrouve après pour manger en bas tous. Et puis voilà, notre apôtre Paul à nous. Non, c'est notre envoyé Floriane qui est au Canada. Donc.
Juste une petite vidéo pour vous donner quelques nouvelles ici du Canada où j'étudie la Bible. Comme ça vous voyez un peu aussi le panorama, où est-ce que je vis. Donc voilà, on a plein de neige. J'ai même mis ma petite chemise canadienne pour vous. Voilà. Du coup ça se passe super bien, je vous avoue qu'il y a eu des moments aussi où j'avais juste envie de jeter les livres par la fenêtre et de rentrer chez moi parce que c'était difficile et parce que je me sentais pas capable. Mais s'il y a une chose que j'ai vraiment appris pendant ces deux derniers mois, c'est combien Dieu a choisi des gens tellement simples, il a choisi des simples pécheurs que lui-même il a qualifiés pour annoncer son évangile, et je sais que je fais partie aussi des gens qu'il a choisis. Et voilà, donc dans les moments où je me sens tellement faible et pas capable, ben, il vient me rappeler combien c'est lui qui me rend capable. Et je crois que vous avez eu aussi un petit message là-dessus par Mathieu Trottin. Et du coup, juste, ouais, je trouve ça cool de voir aussi que les choses que je vis ici, vous les vivez. Et, ouais, je voulais juste, voilà, vous dire que je pense à vous, que je prie pour vous aussi. Je vous vois sur Insta à fond en train de préparer la fête de Noël. Et c'est trop bien. C'est un super moyen aussi de proclamer son évangile, de parler de Jésus, de sa naissance. Donc vraiment, je vous encourage. Et puis, je me réjouis de vous voir dans un mois pour les vacances de Noël. Gros bisous. Ciao.